France Inter, franceinter.com.
Eh bien, nous sommes avec Hélène Carrère-Dancos pour parler d'un tournant dans l'histoire de la Russie, l'assassinat d'Alexandre II. Le gouvernement russe est une monarchie absolue, tempérée par l'assassinat. Custine. Ans d'histoire. Pendant 25 ans à la tête de la Russie, Alexandre II en avait bouleversé l'histoire en entreprenant plus de réformes que tous ses prédécesseurs. En 1861, en abolissant le servage, il avait libéré plus de 40 millions de paysans et il préparait une réforme des institutions qui aurait pu faire de son pays une monarchie constitutionnelle lorsque le 1er mars 1881, il était assassiné à Saint-Pétersbourg par une organisation terroriste qui le traquait depuis longtemps. Elle s'appelait Narodnaya Voya, la volonté du peuple, mais elle ne représentait qu'une poignée de révolutionnaires bien décidés à éliminer le seul souverain russe qui, 36 ans avant la révolution bolchevique, avait bien compris que pour empêcher l'effondrement de son empire, il fallait d'abord le réformer.
Chaque dimanche midi, le tsar se rend au manège Saint-Michel pour assister à la relève de la garde. Il n'y a que deux itinéraires possibles, la petite Sadovaya et le quai du canal Catherine. Cette fois, le tsar ne pourra plus nous échapper.
Je demande à être de ceux que vous désignerez pour cet attentat.
Toi, Vysakov?
Oui, j'ai une raison précise pour insister.
Je la connais. Il y a un oncle qui habite en face du canal Sainte-Catherine. De sa fenêtre, on peut surveiller la rue. Et jeter une bombe au moment exact où la voiture du tsar passera.
Ah, midi. Le cortège ne va pas tarder.
Hélène Carrère-Dancos, bonjour.
Bonjour.
Dans la biographie d'Alexandre II que vous venez d'écrire chez Fayard, vous rappelez qu'il n'a pas été le premier tsar assassiné. Il y en avait eu beaucoup d'autres. Le gouvernement russe est une monarchie absolue tempérée par l'assassinat, hein, disait Custine. Et l'assassinat d'un tsar, c'était presque banal, sauf que dans le cas d'Alexandre II, ce n'était pas n'importe quel tsar. C'est vraiment un de ceux qui a le plus compté dans l'histoire de l'Empire russe, le plus réformateur peut-être de tous les tsars russes.
Oui, c'est le plus réformateur. Il l'a été beaucoup plus que Pierre le Grand, qui a beaucoup réformé, mais qui a réformé avec des méthodes barbares, un petit peu à l'asiatique. Il a été un réformateur de type occidental, ce qui était une nouveauté extraordinaire. Et c'est un tsar qui a accompli une œuvre dans tous les domaines. C'est ça qui est extrêmement important. Il a tout couvert, tous les champs.
Et un tsar qui monte sur le trône dans des circonstances difficiles. Il succède à son père Nicolas Ier et à l'extrême fin d'une guerre dans laquelle la Russie a perdu sa place des plus grandes choses en Europe. C'est la guerre de Crimée, Hélène Carrère-Dancos.
Oui, et il s'est trouvé devant un bilan désastreux car la Russie, depuis le règne d'Alexandre Ier, c'est-à-dire depuis les victoires sur Napoléon, était devenue la grande puissance européenne, l'arbitre de l'Europe, la mère de la Sainte Alliance. Et puis tout d'un coup, la défaite de la guerre de Crimée, où s'est engagé très imprudemment le père d'Alexandre II, Nicolas Ier, rejette la Russie là où elle avait, où elle se trouvait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire un pays que l'Europe considérait comme tout à fait marginal. C'est un désastre, c'est une humiliation épouvantable pour un pays qui a été au cœur du concert européen. Et surtout, ça conduit la société à constater quelque chose que jusqu'alors elle pressentait sans le savoir clairement, c'est-à-dire que le désastre n'est pas seulement militaire, que c'était un colosse au pied d'argile, et que si cette puissance s'est effondrée, les raisons en sont probablement aussi dans un retard intérieur tout à fait spectaculaire.
Et un retard que constate notamment un mouvement révolutionnaire qui commence à se développer avec plusieurs figures, dont l'une, dont vous parlez beaucoup d'ailleurs de l'une d'entre elles, qui est Alexandre Herzen, qui est en exil, qui est le père du socialisme russe, le père lointain, on a un peu oublié son nom, mais qui a eu une importance assez considérable dans le développement de ce mouvement révolutionnaire, Hélène Kerdenkos.
C'est un homme considérable et on a tort de l'oublier. Il a été effacé par les marxistes ensuite et par le bolchevisme, qui n'aimait pas du tout la pensée d'Herzen parce qu'elle était équilibrée. Mais Herzen a marqué toute cette moitié du siècle, qui est la moitié du siècle d'Alexandre II. Il était exilé, en effet. Il a été exilé tantôt en Suisse, tantôt en Angleterre. Il a été un homme qui, jour après jour, a consigné dans ses publications. Il a vraiment noté tout ce qui n'allait pas en Russie. Il a publié divers journaux, dont le fameux Kolokol, la cloche, qui est au fond une histoire du retard russe et des possibilités d'en sortir. Il a été la conscience de la Russie à distance, et c'est ça qui est extrêmement important. Il avait une autorité morale extraordinaire. Et c'est un homme qui a su, d'ailleurs, au moment tout opposant qu'il fut au système, lorsqu'il a vu qu'il y avait de bonnes réformes, on l'évoquera au moment de l'abolition du servage, il a su y applaudir.
Mais d'ailleurs, il compte beaucoup, son exil en Suisse, il compte beaucoup, justement, sur le nouveau tsar pour transformer la Russie.
Sa Majesté, le tsar. Je voudrais savoir d'abord si vous avez pris connaissance de la lettre ouverte que m'a adressée de Suisse Alexandre Herzen. Voici ce que m'écrit Herzen. Sire, donnez la terre aux paysans. Abolissez le servage. Guérissez les cicatrices sur le dos de nos frères. Sauvez le peuple. Épargnez le sang qu'il devra verser.
Herzen est un émigré, un révolutionnaire, un journaliste. Trois raisons pour ne jamais lire sa prose, n'est-ce pas, messieurs?
Il y a pourtant ici même quelqu'un qui estime que Herzen n'a pas tort et que le servage doit être aboli.
Ah, et puis-je savoir qui?
Moi. Si je n'étais pas l'empereur, vous m'enverriez en Sibérie, Kouvarov, hein?
Et oui, un tsar réformateur, on n'en voit pas beaucoup. Surtout pour réformer quelque chose qui est vraiment une des plaies de la Russie, il faut rappeler ce que c'était peut-être, Hélène Kerdenkos, c'est le servage.
Oui, c'est la tragédie russe. Je crois qu'il faut bien situer les choses au temps où elles se situent. Le servage a été aboli en Europe depuis très longtemps, dans la plupart des pays européens. Il subsiste encore au début du XIXe siècle dans certaines petites principautés allemandes, mais il ne peut s'apparenter qu'à l'esclavage américain, qui sera aboli d'ailleurs en même temps, à 4 ans près,
deux ans plus,
par Lincoln,
oui.
Exactement. Donc là, il y a un parallélisme. Le servage, ce n'est pas exactement l'esclavage, c'est un degré au-dessous, malgré tout, car les serfs avaient tout de même un maître qui était supposé les défendre, c'était le tsar. Mmh. Mais enfin, c'était l'essentiel de la société, ça n'était pas des citoyens. Et ces serfs qui dépendaient de leur seigneur, il y avait aussi les serfs de la couronne, mais les principaux, c'était ceux qui dépendaient de leur seigneur. Bon, ils étaient corvéables et taillables à merci. Et tous les souverains, avant, depuis Catherine II, ont été obsédés par l'idée d'abolir l'esclavage, mais c'était une tâche presque le servage, c'était une tâche presque impossible, parce que était contre, au moment où Alexandre II monte sur le trône, la noblesse, qui avait des serfs. Les serfs n'étaient pas, enfin, les serfs voulaient la terre, mais ils ne savaient pas très bien, au fond, ce qu'était leur statut. Et les élites, on a évoqué Herzen, cette élite libérale, elle a toujours trouvé que ça n'allait pas assez vite. Mmh. C'est-à-dire qu'elle aurait voulu le grand soir. Donc, au fond, Alexandre II s'est trouvé sans soutien à part quelques libéraux.
Ça n'allait pas vite parce que ce n'était pas simple. Il fallait bien entendu indemniser d'une manière ou d'une autre les propriétaires de ces serfs, c'est-à-dire en fait la grande noblesse aristocratique, et donner, parce que ça n'avait aucun sens autrement, et donner des lopins de terre aux serfs, parce qu'on ne pouvait pas se retrouver dans la nature. Et ça supposait le rachat par les serfs, ce qui était...
Il n'avait pas d'argent pour ça. Ouais. C'était compliqué au debout, parce que la noblesse, ce qu'Alexandre II savait, qui va se sentir dépossédée, elle s'est toujours débarrassée des souverains qui ne l'ont pas servi. C'est-à-dire qu'elle dépendait d'eux, ils dépendaient d'une certaine façon de la noblesse. Ils ne pouvaient pas la mécontenter outre mesure. Donc, en effet, il fallait l'indemniser. Mais il ne faut pas oublier que tout ça se situe au lendemain de la guerre de Crimée, qui a vidé le trésor russe aussi. Le trésor ne peut pas faire n'importe quoi. Et les serfs voulaient la terre. Or, pour leur donner la terre, il fallait la prendre aux propriétaires, ce qui était très compliqué, et décider au fond comment on partagerait la terre. Et les paysans n'avaient pas le premier sou pour acheter, c'est-à-dire qu'il fallait leur faire des prêts. En définitive, c'était le trésor qui payait les choses.
Et c'est ainsi que finalement Alexandre II réalise ce projet le 19 février 1861.
Sa Majesté le Tsar.
Asseyez-vous, messieurs.
Messieurs les délégués de la noblesse, l'heure de la réforme est venue. Nous, empereurs de toutes les Russies, proclamons l'abolition du servage et accordons aujourd'hui la liberté personnelle à 49 millions de nos sujets.
Je le veux, je l'exige, je l'ordonne.
Vive les morts !
Dieu protège le tsar, l'hymne de la Russie impériale, au moment donc où elle abolissait le servage. Une mesure, d'ailleurs, dont on mesure mal l'importance, vous l'avez rappelé quand même, nous sommes à 2 ou 3 ans de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, mais l'esclavage aux États-Unis, ça concernait 4 millions de Noirs. Là, il y a près de 50 millions de Russes.
Oui, et on leur donne la terre. Oui. Aux États-Unis, on ne leur a pas donné la terre pour autant, on les a libérés. Oui. Et aux États-Unis, ça a donné une guerre civile. En Russie, il n'y a pas eu de guerre civile, ça s'est passé dans la paix.
Tout le monde se souvient de Lincoln, mais on a oublié l'importance de cette réforme d'Alexandre II. Une des nombreuses réformes, vous en citez beaucoup d'autres, Hélène Kerdenkos. D'abord, il y a celle de la justice. Qui
est une réforme capitale, parce que la justice russe était une justice qui n'était juste que de nom. Elle était même monstrueuse. Custine, tous les voyageurs racontent les horreurs. On fouettait tout se passait en châtiment corporel, tout à fait monstrueux. Il n'y avait aucune justice contradictoire, il n'y avait pas d'avocat. Et d'un seul coup, Alexandre II a fait élaborer cette réforme de la justice qui a fait de la Russie le pays avec la justice la plus moderne en l'espace de quelques années. Mais véritablement, au regard de tout le reste de l'Europe, c'était une justice exemplaire.
Avec ces châtiments corporels qui étaient épouvantables,
qui ont été supprimés,
on fouettait avec un knout les...
Fouettait avec les knouts. Et d'ailleurs, quand on lit la comtesse de Ségur, il y a les récits du capitaine qui fouette la mauvaise nièce.
Réforme de l'université aussi.
Alors, une réforme de l'université, je vous dirais, c'est intéressant de penser en termes contemporains. La réforme de l'université russe est une réforme qui évoque ce pour quoi on se bat aujourd'hui en France. L'autonomie des universités, qui est très grande, qui va être très grande en Russie. Et quelque chose que nous voyons en France, c'est-à-dire, mais qui était interdit avant 1968, c'est-à-dire la possibilité des débats au sein de l'université, de la propagande étudiante, etc. Tout cela a fait partie de cette réforme universitaire dans un pays où les problèmes d'éducation avaient une importance considérable. Cela dit, c'est une réforme, je dirais, à double tranchant.
Oui, elle va se retourner contre
Elle va se retourner parce qu'on forme une élite extraordinaire. La qualité de l'enseignement supérieur russe était étonnante. D'ailleurs, la première grève étudiante a lieu à ce moment-là parce qu'un professeur ayant subi des sanctions, tous les étudiants se sont mis en grève. Mais évidemment, cette élite étudiante... elle va exiger les avantages inhérents à l'éducation reçue. Et elle va renourrir les rangs de l'opposition.
Réforme aussi administrative avec les Zemstvos, qui sont une espèce de parlements régionaux.
Ce sont à tous les niveaux de la société, depuis les élections commencent au village. Ouais. C'est au fond une autogestion populaire, ou une démocratie participative, pour utiliser un terme contemporain. C'est-à-dire que les paysans libérés du servage deviennent électeurs et peuvent être élus dans ces parlements locaux, puis régionaux, on peut dire que la démocratie se fait à tous les étages, là.
Et y compris dans l'armée, parce qu'il y a une réforme de l'armée qui universalise le service militaire, qui ne concernait que peu de gens, mais alors pour une durée
25
incroyable,
ans.
25 ans de service militaire.
Dans des conditions épouvantables. D'abord, c'était par tirage au sort. En fait, c'était les plus misérables qui étaient recrutés pour 25 ans. Ceux qui pouvaient se faire exempter se faisaient exempter. Donc, il y a un souci de justice, d'abord. C'est le service militaire universel qui va s'établir. Et puis, il y a un souci... pas seulement de justice, mais d'humanité. Au lieu de 25 ans, ça va se réduire à 14 ans et 12 ans. Là aussi, si vous voulez, la condition des gens se transforme. La société n'a plus l'impression d'être livrée au bon vouloir de la bureaucratie.
Alors, très libéral en politique intérieure, Alexandre II l'est beaucoup moins que lorsque l'intégrité de l'Empire est menacée, en Pologne par exemple, dans le Caucase, en Asie centrale ou encore en Sibérie, dont les troubles d'ailleurs ont inspiré un célèbre roman de Jules Verne, dont l'action se situait précisément à l'époque d'Alexandre II.
Féofar Khan, émir de Boukhara, se révolte contre mon autorité. Lève une armée sur mon propre territoire. Envahit et ravage la Sibérie orientale. Menace la ville d'Irkoutsk, où mon propre frère se trouve enfermé. Et vous ne savez rien. Et par-dessus le marché, Féofar Khan a détruit la seule ligne télégraphique qui reliait Moscou et Irkoutsk. Plus de communication possible entre mon frère et moi. Il faut que mon frère, le grand-duc, soit prévenu de ce nouveau danger dans les délais les plus brefs.
Il faudrait trouver un homme.
Messieurs, la Russie compte 90 millions de sujets. J'espère que vous y trouverez un homme.
Je crois l'avoir trouvé, sire.
Parfait. Ton nom?
Capitaine Michel Strogoff, du service des courriers impériaux. Aux ordres de votre majesté.
C'est un extrait de la meilleure adaptation de Michel Strogoff de Jules Verne. Hein, le courrier, ce Michel Strogoff, ce courrier du tsar envoyé en Sibérie, bon, personnage imaginaire, mais dans un pays, dans une des nombreuses provinces de cet immense empire russe, où là, Alexandre II est beaucoup moins libéral, et notamment la Pologne en faisait partie. Lorsqu'elle se soulève en 63, il va l'écraser très brutalement.
L'affaire polonaise est doublement intéressante. Bon, d'abord parce qu'Alexandre II, en effet, a pensé qu'il ne pouvait pas tolérer le soulèvement polonais, mais aussi parce que la Pologne, ça a été d'une certaine façon le laboratoire libéral. C'est-à-dire qu'avant le soulèvement, Alexandre II évoque l'idée d'une possible... Il y a une constitution en Finlande, il se demande si on ne pourrait pas en faire une, ce qui avait été promis en Pologne. Et le soulèvement polonais se situe en 1863, c'est-à-dire dans la foulée du printemps des peuples qui a bouleversé l'Europe en 1848. C'est un vrai printemps. Ce qui se passe en Russie depuis le début du règne d'Alexandre II, depuis 1856, c'est un printemps, toutes ces réformes. Et on peut dire que le printemps polonais tue d'une certaine façon le printemps russe. C'est ça qui est très paradoxal, car Alexandre II, le libéral, considère que l'intégrité de l'Empire, c'est fondamental. Vous savez, l'Empire n'a jamais reculé nulle part. L'histoire de l'Empire de Russie, c'est une avance perpétuelle, même si Alexandre II est le seul souverain, et les Russes s'en souviennent, qui a accepté un abandon, c'est-à-dire l'abandon de l'Alaska.
Et ça, on l'oublie aussi. L'Alaska, qui était russe, et même la ville de San Francisco.
Même la ville de San Francisco, qui s'appelait Fort Ross. On avait construit un fort là. Et il y avait des colonies de Russes. Et même aujourd'hui, on retrouve des églises qui sont celles qui ont été construites à cette époque. Or, l'idée impériale, c'est toujours qu'on va de l'avant, mais jamais de l'arrière. Et en Pologne, ça voulait dire reculer, reconnaître une certaine autonomie à la Pologne. Cet écrasement de la Pologne donne d'Alexandre II l'image de quelqu'un de rétrograde. En fait, les réformes ne s'arrêtent pas en 1863. Il écrase la Pologne. Il continue à réformer jusqu'en 1866. Et puis, il y a eu un temps d'arrêt, mais qui est consacré au développement impérial.
Alors, au développement de l'Empire, dont il reporte les frontières plus loin, hein, s'il abandonne Alaska et San Francisco, il va plus loin. Par exemple, c'est lui qui est à l'origine d'une annexion, si on peut dire malheureuse, quand on voit ce qui s'y passe aujourd'hui, c'est la Tchétchénie.
Oui, alors, il a récupéré la fin. La guerre du Caucase commence au début du siècle. Oui. C'est à lui que l'imam Chamil va se rendre. Et il a traité l'imam Chamil, d'ailleurs, il faut dire, le chef de la rébellion tchétchène, comme un grand chef de guerre. C'était la paix des braves en ce temps-là, on savait faire la paix. Néanmoins, ce Caucase va être en permanence une terre de révolte et il aura toujours à surveiller le Caucase. Mais ça n'empêche qu'il s'étend là et surtout il s'étend en Asie centrale. La conquête de l'Asie centrale, ça conduit la Russie aux frontières. Ça conduit la Russie à la frontière de l'Afghanistan et sur la route de l'Inde, ce qui est un des grands problèmes puisque l'angoisse de la diplomatie anglaise et de la cour de Londres, c'est que la Russie, avançant vers l'Inde, par ces conquêtes-là, devienne un jour l'un des grands acteurs de la politique indienne ou de la politique du Moyen-Orient.
Il va même justement avancer jusque dans les Balkans avec une guerre contre la Turquie pour libérer les peuples slaves des Balkans.
Oui, parce que la théorie de l'Empire russe, c'est que la Russie était protectrice de tous les orthodoxes des Balkans. Alors, les États catholiques étaient protecteurs des catholiques, mais lui se voulait protecteur de tous les chrétiens, d'où la guerre des Balkans. Et cette guerre des Balkans est capitale, parce que naît de la guerre des Balkans où la Russie remporte des victoires. C'est une guerre compliquée. La Russie se trouve en position très difficile parce que ce dont Alexandre II a peur, il ne faut pas l'oublier, c'est de répéter la malheureuse affaire de son père. Si son père a perdu la guerre de Crimée, c'est parce que la Russie était isolée face à une sorte de conjuration européenne. Et toute l'œuvre d'Alexandre II aura été d'écarter une possible alliance anglo-franco-prussienne et de jouer un jeu, d'être le vrai acteur de cette guerre. Ça se termine par deux traités, le traité de San Stefano et le traité de Berlin, où incontestablement la Russie ayant remporté des succès considérables, Alexandre II a dû faire quelques concessions, mais pas trop. En définitive, son bilan, comme disait un de ses diplomates, celui qui aurait rêvé des résultats que vous avez constatés, eh ben, celui-là aurait été traité de fou.
Alors ce dont il a peur aussi, Hélène Karadankos, c'est de la montée de la violence en Russie avec un mouvement révolutionnaire au début assez pacifique. Il y a ce qu'on appelait le populisme avec un homme comme Lavrov qui demandait aux étudiants d'aller au peuple. Hein, puis ça a été un échec total. Et alors un mouvement qui devient terroriste avec ce mouvement, cette organisation Narodnaya Volia, la volonté du peuple, et un terrorisme qui traque Alexandre II. C'est un homme qui passe son temps à échapper à des attentats. Il y en a eu 5 avant l'attentat qui lui coûtera la vie.
Il a été d'ailleurs formellement condamné à mort par ce mouvement. Il faut se souvenir que ce mouvement est sorti d'un mouvement précédent qui s'appelait Zemlya, c'est-à-dire la terre et la liberté du peuple. Et c'est devenu la volonté du peuple. Le premier mouvement disait il faut la terre aux paysans. Et puis, dans sa nouvelle forme, c'est devenu un mouvement dont le dessein a été d'assassiner l'empereur pour faire une révolution. Et ils ont condamné, il y a eu une réunion où il a été formellement condamné à une sorte de tribunal, formellement condamné à mort. Et en effet, il y a 5 attentats, des attentats extravagants, vous comprenez. On creusait des tunnels sur son passage, mais c'était tout à fait étonnant, pour qu'on dépose des bombes là-dessous. Et la police n'y voyait rien. Il y a une certaine complicité policière. Ça pose un problème historique. Mais je dirais que d'une certaine façon, Alexandre II se sentait traqué. Ça, c'était, puisqu'il y a même eu un attentat dans son palais. Et en même temps, une voyante lui avait prédit qu'il ne serait tué qu'au 7e attentat. Ce qui fait que le jour de sa mort, il est sorti de son palais. Sa femme, nouvellement épousée, l'a supplié de ne pas sortir, ou en tout cas de suivre un certain chemin,
ouais.
Katia, et il a dit, mais pas du tout. J'ai eu 5 attentats contre moi, ce n'est que la 6e fois, je ne risque rien.
Ce qui est pathétique, c'est que ça se passe au moment précis où il prépare sa plus grande réforme, peut-être, qui ne verra jamais le jour. C'est un projet de constitution qui devait amener la Russie, au fond, vers un régime à l'anglaise, en tout cas une monarchie parlementaire, ce qu'elle n'avait jamais connu.
Oui, c'est un coup du destin terrifiant pour la Russie et je dirais pour l'Europe entière, pour tout le continent. Car en effet, bon, de réforme en réforme, il avait construit un État moderne. Mais il manquait à cet État quelque chose, c'était le sommet, c'est-à-dire le système politique. Il a longtemps résisté parce qu'il était héritier d'un système autocratique. Il n'était pas pour une constitution, mais il a compris. Cet homme a toujours compris ce qu'il fallait faire, le contraire de ce qu'il pense ou de ce qu'il aimait. Et il a décidé, dans ces dernières semaines de sa vie, d'établir un texte institutionnel qui ouvrait la voie à la monarchie constitutionnelle. Et ce qui est tragique, c'est qu'il a signé ce texte. Il est assassiné alors que le texte devait être promulgué 3 jours plus tard.
Ah, Majesté, je craignais d'arriver trop tard.
Au moment où j'allais partir, on m'a apporté ces épreuves d'imprimerie. Je n'ai plus résisté au plaisir de les examiner.
La Constitution?
Oui. Les guerres, qu'on les perde ou qu'on les gagne, feront toujours le malheur du peuple. Mais avec ça, au moins, je suis sûr que j'aurai fait quelque chose pour lui. Mon passage sur Terre n'aura pas été inutile.
Nous admirons tous votre générosité, mais elle met en péril les bases mêmes du régime. Une constitution en vaut une autre, mais celle-ci va ruiner des intérêts immenses, d'où le danger d'une trop grande précipitation.
Quel danger? Les terroristes étaient à craindre. Vous m'avez préservé d'eux. Vous me garderez bien contre les gens de la cour.
Leur passe, et votre majesté est attendue.
Oui. J'oubliais. Vous aviez une chose urgente à me dire.
Elle peut attendre demain.
Très bien. Alors, à demain.
Et Et c'était le 1er mars 1881, l'attentat qui a coûté la vie à Alexandre II. Dans les circonstances épouvantables, il a été...
Effroyable, il a été déchiqueté, absolument. D'ailleurs, en fait, il aurait pu ne pas mourir s'il n'avait pas été un homme courageux. Car il a été épargné par la bombe qui a été lancée sur lui, par l'explosion. Et comme il a vu qu'un soldat avait été blessé, son cocher lui a dit « Venez, venez, partons ». Et au lieu de ça, il a couru vers le soldat blessé, il s'est penché vers lui. Et à ce moment-là, il a été atteint par la seconde bombe, ce qui fait que la voyante qui lui avait dit que ça serait au 7e attentat, en fait, c'était 6, mais à 2 coups. Et un révolutionnaire a dit de lui qu'il était mort en soldat. Et c'est la vérité, seulement il a été déchiqueté, c'est épouvantable. Et on l'a rapporté dans son palais mourant, il avait un œil arraché. Enfin, c'était un spectacle inimaginable. Et son petit-fils, qui deviendra Nicolas II, a été conduit devant le quasi-cadavre, le mourant déchiqueté, devant ses souffrances. Et ça explique aussi que son héritier, Alexandre III, se soit dit, ce qui a été le mot qui a couru à ce moment-là, voilà ce que donnent les réformes. Vous faites des réformes et on vous assassine. C'est-à-dire que son fils, par horreur des réformes, a déchiré la réforme que son père avait signée, mais pas encore promulguée. Et du coup, cette page de l'histoire, je dirais, quasi révolutionnaire de la Russie se ferme au bénéfice de la révolution qui viendra plus tard et qui nous vaut une Europe sanglante au XXe siècle.
Pas de réforme, en fait.
Pas de réforme.
Une révolution. Ce que voulait, au fond, Alexandre II, vous le rappelez, Alexandre II disait, si on veut empêcher la révolution, il faut réformer.
Exactement.
Et il n'y a plus de réforme à partir de sa
mort. Et les révolutionnaires qui l'ont tué se disaient au contraire, si nous ne faisons pas, si nous ne l'assassinons pas, on aura des réformes et on a toutes les chances de manquer la révolution. C'est l'extrémisme qui l'a emporté. C'est ça la leçon de cette histoire.
Et c'est en quoi cet assassinat, il a des conséquences, non seulement pour la Russie, mais pour le monde entier.
Pour tout le XXe siècle.
La révolution de 17, qui ne serait, vous faites un peu d'histoire-fiction, mais ça ne serait peut-être pas produit, cette révolution de 17, si l'Empire russe avait continué à avoir des réformes.
Si c'était une démocratie, une monarchie constitutionnelle, il n'y avait pas de raison qu'il y ait la révolution. C'est bien ce que... Mais Lénine l'a toujours su aussi. En fait, les assassins d'Alexandre II ont programmé toute l'histoire européenne du XXe siècle.
Ça fait penser quand même, et vous le dites d'ailleurs, enfin vous parlez de glasnost, de perestroïka, au destin d'un homme qui lui était à la tête de la Russie communiste, c'était Gorbatchev. Il a voulu réformer. Et tout s'est effondré.
Tout s'est effondré, mais lui, alors la différence entre Gorbatchev et Alexandre II, c'est qu'Alexandre II est allé au bout de son projet, il a été assassiné, c'est ça qui l'en a empêché. Tandis que Gorbatchev, au bout de son projet, il a eu peur de voir le communisme s'effondrer, il s'est arrêté, il a nommé des conservateurs qui l'ont envoyé à Foros, qui se sont débarrassés de lui. Et on peut dire que le système s'est effondré. Mais l'Empire russe ne se serait pas effondré si Alexandre II était allé jusqu'au bout.
Est-ce que les Russes connaissent son histoire, Alexandre II ?
Eh bien, ils sont en train de le redécouvrir, je peux vous le dire, parce qu'en fait, ils ont été comme tout le monde. Il a été oblitéré par l'histoire. Ce qui est curieux, quand on se promène en Russie, on cherche les statues d'Alexandre II. Et alors qu'on voit celle d'Alexandre III.
Eh bien, en tout cas, on peut sans doute, j'espère, y trouver votre livre, Hélène Karadankos. Il est passionnant. Alexandre II, le printemps de la Russie, qui vient de paraître chez Fayard. À lire également Le grand siècle russe de Vladimir Berilovitch, publié chez Gallimard dans les collections découvertes, mais qui évoque plusieurs tsars. Vous avez pu entendre aussi des extraits des films suivants. Katia de Robert Siodmark, édité par René Château Vidéo. Et Michel Strogoff, bien sûr, de Carmine Gallone, disponible en DVD aux éditions Studio Canal. Et avec Kurt Jürgens dans le rôle de Michel Strogoff. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Henri Bérec et Frédéric Potry. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva. Une réalisation de Séverine Cassard. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un aventurier et un écrivain, Henri de Monfrède.